Chapitre deuxième.
Hola, oh, garde donc, sacré.
La fin du juron se perdit dans un effroyable tumulte. Des chevaux brusquement retenus se cabrèrent. Des voitures, des charrettes refluèrent les unes sur les autres. On entendit craquer des brancards et hurler un chien, tandis que de 20 côtés à la fois jaillissaient des exclamations et des cris d'angoisse. Effaré au milieu de cette houle qui, de toutes parts, menaçait de l'engloutir, une femme qui s'était imprudemment engagée au travers de la chaussée perdit la tête. Elle se jeta follement en avant, vit courir sur elle en sens inverse trois ou quatre machines roulantes, traînées par des chevaux, qui lui parurent monstrueux. Pour les éviter, elle sauta en arrière. Mais là, comme en un cauchemar grandissant, ce fut une épouvante nouvelle. Une voiture énorme, chargée de monde, accourait. Un cheval se dressa de toute sa hauteur et si près d'elle qu'elle sentit sur sa face la chaleur du corps de l'animal. Et avec cette acuité singulière du cerveau en de certaines crises extrêmes, elle eut nettement la vision et pour ainsi dire la sensation de ce qui allait arriver. La bête géante qui la broierait en retombant et sur son cadavre écrasé, défiguré, le roulement de cette épouvantable avalanche qu'on ne pourrait arrêter que trop tard, quand il ne resterait plus d'elle que des lambeaux épars de chair rouge et de vêtements souillés. Instinctivement, elle avait fermé les yeux, clouée au sol. Elle sentit un choc rude, crut que c'était fini, fut jetée de côté, bousculée, emportée, et tout à coup se retrouva où, elle n'eût pu le dire, les jambes fléchissantes, les yeux pleins d'ombre, à demi morte, mais ayant comme une vague idée qu'elle était maintenant en dehors de la trompe de bruit et de mouvement qui continuait de gronder et de rouler là-bas, plus loin. Comment donc avait-elle pu sortir de ce chaos, échapper à cette bête dressée? Une faiblesse la reprit. Elle vacilla, presque évanouie. Un sourd bourdonnement emplissait ses oreilles. « Vous avez eu bien peur, madame, » dit avec sollicitude une voix masculine. « Mais remettez-vous, tout danger est passé. Vous êtes en sûreté maintenant. » Il sembla à la jeune femme que cette voix, venue de très loin, l'attirait de sa torpeur. Au dernier mot, elle souleva ses paupières lourdes et fut surprise de voir tout près d'elle un monsieur inconnu qui la regardait avec bonté. Dans le flou de sa demi-lucidité, il lui parut très grand et puissamment musclé. Point beau, mieux, une tête ardente, rudement modelée, éclairée par le flamboiement de deux yeux bleus inoubliables. Des cheveux de rue qui déjà grisonnaient, la barbe un peu longue s'argentait aussi de reflets blancs. Mais sous le poudroiement léger de cette neige précoce, la sève de l'été, visiblement, courait encore. « Pouvez-vous à présent vous tenir debout ? » demanda-t-il. Elle s'aperçut alors qu'elle était entre ses bras, et toute confuse tenta de s'affermir sur ses jambes. « Je crois que oui, monsieur. » Avec précaution, le compatissant inconnu dégagea la taille de la jeune femme, et comme elle ne semblait pas tout à fait solide encore, il reprit « Appuyez-vous sur moi. » Elle accepta. L'air poli et obligeant de son interlocuteur excluait toute arrière-pensée inquiétante. La jeune femme, d'ailleurs, était trop émue et trop parfaitement naïve pour se demander s'il était bien convenable d'accepter ainsi l'appui du premier venu. La secousse qu'elle venait de subir l'avait comme étourdie, et se sentant seule, perdue dans le tohu-bohu de la ville géante, à cette heure grise du crépuscule où les choses et les êtres prennent une apparence inquiétante, presque fantastique, elle se rattacha avec empressement à la protection passagère et bienveillante qui s'offrait. Cette impression, du reste, fut inconsciente. Elle la subit sans même se la formuler. L'idée qui, pour le moment, la dominait, c'était de savoir par quel miracle elle avait pu échapper au danger imminent dont elle s'était vue menacée. Pour s'en éclaircir, elle se tourna vers son compagnon. « Comment n'ai-je pas été tuée tout à l'heure par ce cheval ? » demanda-t-elle. « Le savez-vous, monsieur ? » J'ai pu heureusement vous jeter de côté, puis vous saisir et vous emporter, répondit simplement l'inconnu. Mais il était temps. Vous m'avez sauvé ? C'est vous alors ? Reprit la jeune femme avec un élan de gratitude. Oh, monsieur, que de remerciements ! De nouveau, et pour la seconde fois, elle avait relevé sur lui ses beaux yeux, où l'intelligence rallumée brillait maintenant de tout son éclat. Mais presque aussitôt son regard se mouilla, et laissant retomber sa tête. « Peut-être eût-il mieux valu pour moi rester où j'étais. Tout serait fini maintenant. » Ce fut dit avec une telle sincérité de désespérance que le compatissant sauveteur en fut remué jusqu'au fond de l'âme. « Et quoi ? s'écria-t-il, si jolie et si jeune, vous dites de pareilles choses.
Oh, fit-elle, vous ne savez pas.
Puis elle se tut, et lui, par discrétion, n'osa insister. Mais voyant qu'elle rattachait son manteau un peu dérangé dans la bousculade,
« Vous sentez-vous assez forte pour marcher ? »
demanda-t-il.
« Ou désirez-vous que je vous fasse avancer une voiture ?»
Elle parut se consulter et reprit « Suis-je loin de la gare Montparnasse ?»
À 20 minutes environ. Elle réfléchit encore une seconde. « Et ici, où sommes-nous ?
Boulevard Saint-Germain. »
« Et cet autre boulevard où passent tant de voitures et où j'ai failli me faire écraser ?
C'est le boulevard Saint-Michel. »
« Est-ce par celui-là qu'on arrive à la gare Montparnasse ?»«
Non, pas précisément, ou du moins ce serait beaucoup plus long que par la rue de Rennes. »
La jeune femme fit un geste découragé.
« Quand on ne connaît rien, fit-elle, voilà ce qui arrive. J'ai tourné à droite tout à l'heure, tandis que j'aurais dû prendre à gauche. »«
Vous ne connaissez pas Paris du tout, fit-il avec curiosité. »
La jeune femme secoua la tête.
« J'y suis venue seulement 2 fois, la première au moment de l'exposition de 1878, et la seconde il y a 3 ans, au début de la maladie de mon mari, pour consulter les médecins. Je connais un peu la rue de Rivoli, les Champs-Élysées et les environs du Grand Hôtel, mais par ici je suis tout à fait perdu.
« Voulez-vous, reprit obligeamment l'inconnu, que je vous mette dans votre chemin. Le temps est superbe et marcher vous fera du bien après la secousse de tout à l'heure. »
« C'est que, répondit-elle timidement, je crains d'abuser. »«
J'ai précisément affaire par là, » reprit-il afin de lever par ce bénin mensonge les scrupules discrets de sa jolie obligée, qui décidément l'intéressait.
Peut-être aussi, comme M. Perrichon, cédait-il à l'entraînement de son propre bienfait.
Quoi qu'il en fût, l'argument réussit. Sans autres objections, la gentille provinciale se laissa guider par son compagnon, qui n'eut pas le mauvais goût de serrer le bras appuyé sans défiance sur le sien et qui marcha très doucement par égard pour la récente émotion de sa protégée.
« Alors, fit-il d'un air détaché, vous êtes mariée. »
Elle soupira. « Hélas, murmura-t-elle.
« Voilà un soupir qui est pour votre mari une terrible condamnation. »
« Oh, reprit-elle vivement, ce n'est pas qu'il me rende malheureuse par sa faute. »
Elle baissa la voix et dit avec une sorte d'effroi,
« Le pauvre est très fou, monsieur. Une folie épouvantable. Il est dans une maison où je ne puis pas même le voir. »
L'intérêt inspiré à l'inconnu par sa compagne s'augmenta encore de la connaissance d'une situation si pénible. Me préserve le ciel, cependant, de voir, entre cette confidence et la question qui succéda spontanément, une corrélation coupable. Mais il est certain qu'il ajouta
« Demeurez-vous loin de Paris ?»«
Oh oui, » répliqua-t-elle en soupirant de nouveau. « J'habite un pays perdu, au fin fond de la Bretagne, près de Morlaix. »«
Ah, mon Dieu »
fit-il avec un effroi sincère.
« Et vous vivez là toute l'année ?»
Elle inclina la tête d'un air navré.
« Pauvre petite femme, cela doit manquer absolument de gaieté. »
Un troisième soupir, plus éloquent, si possible, que les 2 premiers, répondit à cette brusque explosion. Il reprit, très curieux.
« Pas la moindre distraction, alors ?
Pas l'ombre ?»
Ni voisinage, ni ami, ni aucune ressource, enfin.
Rien, monsieur.
Et vous retournez là sans y être forcé?
La jeune femme, la tête baissée, fit de l'épaule un mouvement malaisé à définir. Cela pouvait également signifier « Où irai-je ? » ou bien « Là ou ailleurs, qu'importe ?» ou encore « Vous en parlez à votre aise, monsieur ?»
Et reprit-il « Vous partez comme cela, si loin, les mains et l'estomac vides. Je n'ai pas faim. »
dit-elle du même ton triste. D'ailleurs, il y a en route tout ce qu'il faut pour manger.
Mais le froid, vous n'avez pas même un châle, et les nuits, en chemin de fer, sont glaciales.
J'ai laissé une valise à la consigne en arrivant ce matin. J'étais si pressé de courir au but de mon voyage que j'avais remis à plus tard la recherche d'un logement. Je comptais aussi sur la personne que j'étais venu voir pour guider mon choix.
Elle se tut de nouveau pendant une seconde, puis elle sourit amèrement et, se parlant à elle-même, ajouta
« Si j'avais su ce qui m'attendait. »
Elle n'acheva point et retomba dans un mutisme plein de mélancolie. Cela ne fit point l'affaire du confident, mis en goût par ses lambeaux de renseignements sur lesquels il pressentait une histoire peut-être touchante. L'héroïne, à coup sûr, l'était infiniment. Aussi, après avoir un moment respecté le silence de sa compagne, il renoua insidieusement l'entretien. Une grosse déception, alors ? La gentille provinciale fit de la tête un oui excessivement expressif, et même ses yeux bleus s'élevèrent tout en haut, comme pour prendre le ciel à témoin de l'injustice du sort. Puis, brusquement, se tournant vers son compagnon, qu'elle regarda bien en face, « Vous êtes parisien, vous, monsieur ?»«
Je crois l'être devenu un peu, » répondit-il en souriant.
« Enfin, vous y connaissez du monde, n'est-ce pas ?»« Mais, » fit-il un peu étonné de l'interrogatoire,
« je connais en effet pas mal des gens qu'on connaît, c'est-à-dire 200 ou 300 d'individualités environ sur 2 millions d'êtres. »
Tout à son idée, la jeune femme ne prit pas garde à ce que ces questions pouvaient avoir d'extraordinaire.
« Qu'est-ce que vous faites ? » demanda-t-elle nettement. Il hésita une seconde.
« Votre état, enfin, »
reprit-elle un peu agacée et croyant qu'il n'avait pas compris. Il répondit en l'observant attentivement.
« Je suis architecte. »
« Architecte, » répéta-t-elle contrariée.
« Architecte, c'est ennuyeux. »
« Pourquoi ? » reprit-il, amusé par cette singulière conclusion.
« Parce qu'un architecte fréquente plutôt des entrepreneurs, des peintres et des sculpteurs que des écrivains. »
« On peut cumuler, madame, et c'est précisément ce que je fais. »«
Alors ? » fit la jeune femme. « Vous connaissez tous les poètes ?»«
Tous, non !» s'écria-t-il avec un légitime effroi. « Mais je pense compter au nombre de mes amis quelques-uns des plus grands. »
Tout en répondant, il continuait d'observer l'énigmatique petite provinciale. Il vit clairement qu'elle hésitait à lui poser une question nouvelle, plus indiscrète probablement que les précédentes, et il cherchait un biais diplomatique pour l'amener à s'expliquer lorsqu'elle le prévint. « Vous avez lu les ouvrages de Paul René, n'est-ce pas ?» Le compagnon de la jolie questionneuse parut surpris.
« J'en ai lu plusieurs, » dit-il. « C'est un garçon qui ne manque pas de talent. »«
Un garçon, » répéta-t-elle.
« Alors vous aussi, vous ignorez que Paul René est une femme. »«
Comment, une femme ?» exclama l'inconnu avec un tel éclat que plusieurs passants se retournèrent.
« Qui vous a conté une pareille bourde ?»
La petite provinciale s'arrêta et voulant d'un seul coup convaincre son interlocuteur.
« Qui, elle-même, monsieur, tout à l'heure ? Je la quittais lorsque... »«
Voilà qui est fort. Et cette personne vous a dit être l'auteur ?»
Des heures perdues, des désespérés, de la grande coupable, des poèmes scandinaves, de tout, enfin.
Eh bien, madame, la dite personne a menti impudemment. Paul René est mon ami d'enfance et je vous certifie qu'il n'a jamais porté d'autre robe que celle de son baptême.
Y aurait-il 2 Paul René ? Fit Brigitte.
Je ne le pense pas, reprit en souriant l'ami du poète.
Seulement le monde est plein de jets prétentieux et peu délicats qui volontiers s'affublent de la dépouille des oiseaux un peu mieux vêtus qu'eux. Ils escamotent par ce procédé l'admiration de quelques âmes naïves et jouissent, en voleurs qu'ils sont, de cette apparence de célébrité. Avantage passager qu'il leur faut payer de temps à autre, de la perte d'une de leurs oreilles ou de quelques coups de pied reçus au bas de leur dos. Mais des gens de cette sorte n'en sont pas à s'émouvoir pour si peu. À présent, si les femmes se mettent aussi à exercer le même genre d'escroquerie, il faudra trouver à leur usage d'autres procédés. En attendant, et dans l'intérêt du véritable Paul René indignement dépouillé de son identité, je vous serai obligé, madame, de me donner quelques détails sur l'intrigante qui lui a fait l'honneur de lui emprunter son nom et la paternité de ses œuvres. Mais d'abord, où l'avez-vous rencontrée ?
Chez elle, monsieur, rue de Tournon, 63.
Rue de Tournon. « Voilà qui est particulier, » murmura l'inconnu. À son tour, il demeura pensif quelques secondes, puis, regardant attentivement sa compagne, « À quel étage vous a-t-on fait monter ?
Au 2e.
« Comment est la dame qui vous a reçu ?
Assez grande, des cheveux très noirs, un visage régulier et pâle, de grands yeux sévères qu'elle adoucit parfois, mais dont le regard me causait malgré tout une sorte de frayeur. »
À chaque indication nouvelle, l'homme qui avait sauvé Brigitte approuvait d'un signe de tête.
« Mais enfin, » reprit-il, « à quel propos alliez-vous chez Paul René et comment vous étiez-vous procuré cette adresse ?»«
Si je vous contais cela, »
dit Brigitte, « vous vous moqueriez de moi. »
Avec une chaleur singulière, l'ami de Paul René protesta contre une telle supposition. Il affirma que la chose, au contraire, l'intéressait très vivement, et comme il ne manquait pas d'éloquence, il persuada bientôt la pauvre Brigitte, qui, à son insu peut-être, éprouvait un besoin vague de se confier, car enfin, si cette femme l'avait abusée, sa situation, elle, se trouvait du coup modifiée.
En toute hypothèse, il importait de voir clair, d'examiner et de s'orienter.
« Puisque vous y tenez, » fit résolument la jeune femme, « voici l'histoire.
Ma vie là-bas, je vous l'ai dit, est bien triste. Pour toute compagnie, je n'ai qu'un beau-père grognon et une belle-mère à moitié folle de dévotion. La seule, l'unique distraction que je puisse me donner, c'est la lecture. Encore ne puis-je, à mon gré, satisfaire même cette passion, et suis-je souvent obligé de recourir à des subterfuges de pensionnaires pour me procurer les livres de certains auteurs mal vus dans mon entourage. Paul René y fut d'abord toléré, parce qu'il écrit en vers et que la poésie passe à Morlaix pour moins dangereuse que la prose. La première œuvre que je lus de lui me passionna. C'était le poème « Des heures perdues ». Je l'appris entièrement par cœur, je le récitais à tout propos. La nuit, j'en rêvais. On s'avisa alors de vouloir le proscrire de ma bibliothèque, mais je me procurai successivement toutes ses autres œuvres et mon admiration devint un culte. Peut-être que je suis trop romanesque et, sans doute, je dois vous sembler bien ridicule, monsieur. » L'inconnu affirma chaleureusement qu'il n'en était rien, et Brigitte, un peu rassurée, poursuivit. « Il faut faire la part de l'isolement. Seul, toujours, la tête se monte. Enfin, que vous dirais-je? Paul René était devenu pour moi un confident, un ami, un dieu. À force de le relire et de commenter chacune de ses pensées, je me mis en tête que lui aussi était isolé et malheureux. Et en effet, sa poésie, vous le savez, est souvent noyée de larmes et pétrie de douleurs. Dans ma folie, car c'en était vraiment une, je l'ai bien compris tantôt en entendant cette dame. Dans ma folie, monsieur, je fis le rêve d'offrir ma vie, mon dévouement, mon âme tout entière à cet homme sublime, de consacrer à le rendre heureux mon existence inutile et sans but, tout cela sans lui demander rien en retour que de se laisser adorer. Après tout, mon idée, si insensée qu'elle me paraisse à présent, n'était pas sans précédent. Goethe, Byron, Beethoven, Liszt, Mérimée, d'autres encore, ont rencontré des dévouements pareils. Soyez sûr, reprit avec vivacité l'ami de l'heureux Paul René, que de tous leurs triomphes, c'est ceux-là qui les ont touchés le plus.
Brigitte poursuivit. Je brûlais du désir d'écrire au poète, mais je ne savais où lui adresser ma lettre, et je craignais, si je l'envoyais à un journal, qu'elle ne fût égarée ou peut-être lue par d'autres. Un jour, cependant, à propos d'une souscription, le renseignement que je désirais tant connaître fut publié. Le lendemain, le courrier de Bretagne emportait ma pauvre petite missive et mon cœur en émoi galopait à sa suite. « Ah, monsieur !» fit la jolie Brigitte, toute vibrante encore au souvenir de cette première audace.
« Ne vous moquez pas, je vous en prie. C'était fou, je le sais, je le comprends. Je vous l'ai dit, et en vérité, je ne m'explique pas à présent comment j'ai pu commettre de pareilles imprudences. Mais je vous ai promis d'être franche et, vous le voyez, j'avoue tout. »
Elle était charmante ainsi, la petite solitaire de Morlaix, toute rouge de confusion, baissant parfois les yeux et les relevant tout à coup plus brillants, naïve, émue, sincère et si instinctive qu'elle en était chaste. Son confident, visiblement enthousiasmé, l'assura qu'il l'approuvait de tout au tout et la pressa de continuer son récit.
« Votre lettre ? » demanda-t-il. « Que devint-elle ? » « Voilà, dit Brigitte, où la chose s'obscurcit pour moi. Ma lettre parvint à destination, et l'auteur des heures perdues daigna y répondre par quelques lignes bienveillantes qui noyèrent mon âme de joie. À dater de ce jour, l'ennui cessa de me dévorer. Je ne fus plus seul. Il me semblait marcher au-dessus de la terre, en plein ciel. Si chétive, si sotte, si ignorée, j'existais pour lui. Dans le rayonnement de sa gloire, ce Dieu voulait bien songer au petit grain de sable que j'étais et me le dire. Je vivais comme en extase. Le réveil n'en fut que plus cruel. Lorsque, au lieu du poète rêvé, je trouvai devant moi cette dame au regard froid, à la raison implacable, qui me traita en petite fille, arracha les ailes à mes doux papillons bleus et me poussa dehors, stupéfié et meurtri. Quelque chose en moi cependant protestait et ne voulait pas, en dépit des apparences, reconnaître en elle l'auteur des vers sublimes qui m'avaient tant et si intimement ému. L'enthousiaste bretonne fit une courte pause et avec élan, mon cœur ne s'y trompait pas, il ne pouvait se méprendre. Elle s'interrompit de nouveau. « Croyez-vous à la double vue, monsieur ?» fit l'interpeller avec doute. « Moi, monsieur, j'y crois. Et tenez, si celui dont nous parlons passait en ce moment,
je suis sûr que je ressentirai au cœur une secousse qui me le ferait immédiatement reconnaître.
« Tout est possible, » répondit avec un beau flegme le sauveteur de la jolie voyante.
« Je dois vous dire aussi, » fit-elle mystérieusement, « que j'ai acheté là-bas un portrait de lui.
S'il en est ainsi, » dit en souriant l'inconnu, « vous êtes deux fois sûr de ne pas vous méprendre. »
Mais, sans l'écouter, il a une tête admirable, n'est-ce pas, monsieur ?
D'homme à homme, vous savez, il est difficile de se prononcer.
Brigitte, cependant, était redevenue songeuse. « Il faut convenir, dit-elle, qu'il y a en tout ceci d'étranges coïncidences, car enfin, comment cette dame a-t-elle pu recevoir mes lettres et y répondre si elle n'est pas ce qu'elle dit être ?
L'adresse était bien la même que celle qu'avait donnée le journal. Le nom de Paul René était écrit sur les enveloppes. Comment est-ce à elle qu'elles sont parvenues ?
C'est inexplicable.
La jeune femme s'arrêta et reprit,
à moins qu'elle ne soit...
Parbleu ! Fit l'inconnu. C'est limpide. Elle a intercepté votre correspondance, et afin de couper court à une aventure qui l'inquiétait, elle n'a rien trouvé de mieux que de se faire passer auprès de vous pour son mari.
Son mari ? Répéta Brigitte foudroyée. Cette dame serait...
Sa femme, tout simplement. Comment ne l'avez-vous pas deviné ?
Oui, en effet, comment cette idée ne lui était-elle jamais venue ? Mariée, Paul René marié ? Elle se redisait cela machinalement, sans bien l'admettre encore. Il lui paraissait inouï qu'une femme ait eu cette audace de prétendre s'élever jusqu'à l'idole et de l'accaparer, comme on fait d'un monsieur quelconque, marié, lui.
L'ami de Paul René haussa les épaules.
« Eh, que voulez-vous ? C'est une mode à présent. » Il n'en envoie guère qui y échappe.
Jadis, c'était autre chose. Les artistes vivaient libres, sous le ciel étoilé, qui de temps à autre s'émiettait sur leur tête et leur illuminait la cervelle. Ils chevauchaient la chimère, désespéraient leur tailleur, aimaient avec beaucoup de rimes et sans aucune raison, adoptaient des enfants perdus, ignoraient les leurs, tenaient tête à des rois, couchaient au violon, se moquaient des sots, jetaient enfin aux quatre vents du ciel leur cœur, leur inspiration et leur vie. Aujourd'hui, ce sont de raisonnables négociants en papier noirci qui épousent des demoiselles bien sages, élevées dans des couvents. Ils ont pignon sur rue et principe à l'avenant. Leur signature est splendide au grand livre, ils connaissent par le menu la langue des chiffres, ils sont ventripotents et patentés, bourrés de vertus et embastionnés de préjugés. Adieu, les théories abracadabrantes, d'où les idées jaillissaient, intarissables comme l'eau des fontaines. Adieu les folles nuitées d'où parfois naissait un chef-d'œuvre, adieu la liberté, l'imprévu et la divine fantaisie aux ailes diaprées. Adieu surtout l'amour, inattendu, subi, endiablé, qui saisissait l'artiste, le roulait dans un tourbillon de soleil et le rejetait pantelant et meurtri, mais ivre d'inspiration. Apollon maintenant trône derrière un comptoir. Il chausse des besicles d'or et ne poursuit plus au carrefour des forêts les nymphes pudiques ou coquettes. C'est un bonnetier méthodique et béat, qui tient ses livres tout en les écrivant, rend comme il convient ses devoirs à Madame la Bonnetière, son épouse, et débite à d'autres bourgeois, épanouis comme lui, des gilets de prose irrétrécissables et des ceintures d'alexandrin garanties. Non, ce que la lune doit rire de nous.
Brigitte, toute saisie, avait laissé passer, sans essayer de l'interrompre, cette giboulée d'ironie qui tombait, drue et crépitante, des livres irrités de son compagnon. En voilà un, par exemple, qu'on enrôlerait difficilement sous la bannière conjugale. Saint du paradis, quelle rébellion contre toute servitude! Si celui-là, pensait-elle, ne meurt pas célibataire, il faudra ne plus croire à quoi que ce soit. Et dans son âme, la petite provinciale, grisée de lyrisme, foncièrement ignorante de la différence qui existe entre le paradoxe et la vie réelle, n'était pas éloignée d'approuver les théories subversives du révolté. Peu à peu, cependant, elle l'écouta moins attentivement. Sa pensée, machinalement, la ramenait vers la désolante certitude qui, pour la seconde fois en l'espace de quelques heures, éparpillait autour d'elle son fragile édifice d'espérance. Le vide de son inutile existence, de nouveau, s'étendait à ses regards désolés, immense, comme un désert. L'angoisse de l'ennui, cette mort cérébrale, l'étreignait. Sans trop s'expliquer ce qu'elle en pourrait faire, la pauvrette essaya d'extraire de son rêve écroulé un débris, si fragile qu'il fût, où elle put accrocher la flamme légère d'un nouvel espoir.
la jeunesse a de ces persistances quasi animales, instinct du vivre qui se refuse énergiquement à l'inexorable et qui s'embarrasse moins des moyens que du résultat. « Croyez-vous, reprit-elle, lorsque l'apôtre de la liberté de Bohème se tut, que Paul René aime sa femme ?» Cette question dénuée de périphrase interloqua fortement celui à qui elle fut adressée. « Vous m'avez dit être son amie d'enfance ?» reprit la jeune femme, étonnée de son mutisme. Sans doute elle avait espéré une réponse aussi spontanée que catégorique. « Vous ne pouvez ignorer cela. » L'avocat des liaisons imprévues comprit qu'il fallait répondre et tenta de mettre à peu près d'accord la vérité, la loyauté et l'adresse. « Je crois, dit-il, que celui dont nous parlons fait ce qu'on appelle bon ménage avec sa femme, qui est pour lui une compagne irréprochable et dévouée. « Que d'ambages ? » fit Brigitte, impatiente. « Je vous demande s'il l'aime. » « Il a pour elle, évidemment, beaucoup d'estime et une sérieuse affection. » reprit du même ton jésuitique l'ami du poète. Mais, et ici notre homme devint plus affirmatif, « je sais aussi que si Paul René soupçonnait le quart de ce que je viens d'apprendre, il répondrait ardemment, discrètement, avec passion, au sentiment adorable qu'il a eu le bonheur de vous inspirer. Je sais encore, et je puis vous assurer, que cet amour serait la plus grande joie de sa vie. Fiez-vous à ma parole, je le connais, vous dis-je, et je réponds de lui. Laissez-la, Morlaix, votre Bretagne au ciel gris, et les vieilles gens à étroite cervelle, qui ne peuvent rien entendre à une âme telle que la vôtre. Restez ici, heureux et ignorés, dans quelque petit coin, où nous vous cacherons à tous les yeux. » Brigitte voulut parler. Son interlocuteur, emballé dans son rôle de soupirant par procuration, ne lui en laissa pas le temps. « Ne dites pas non. Dès demain, dès ce soir, je vous promets la présence de celui que vous étiez venu chercher. Votre ami, votre poète, comme vous disiez si joliment. Qui sait, peut-être, sans vous connaître, rêvait-il aussi de vous ?» L'ami de Paul René, un chaleureux ami en vérité, avait parlé avec une animation croissante, plongeant dans les regards émus de la jeune femme des regards singulièrement entraînants, trouvant, pour essayer de la convaincre, des inflexions tendres comme des caresses, et sans trop s'en rendre compte, emporté qu'il était par son sujet, séduit par la grâce à la fois provocante et chaste de cette femme enfant, agissant auprès d'elle comme s'il eût parlé pour lui-même, priant, la troublant, l'enveloppant de toute la fascination qui était en lui. « Dites oui, dites oui !» ajouta-t-il ardemment. « C'est convenu, n'est-ce pas? Vous restez, vous voulez bien. » Elle porta la main à son front comme grisé, et brusquement, s'arrachant à l'émotion qui l'envahissait, « Oh mais !» fit-elle interdite. « Laissez-moi partir, monsieur. Je ne sais plus où j'en suis. Je veux partir tout de suite, tout de suite. » Et en répétant ce « tout de suite », elle le regardait effaré, comme si l'idée d'une infidélité à son poète eût éclaté tout à coup dans sa pensée et lui fait horreur. Lui devina quelque chose de ce qui se passait dans l'âme de la chère petite. Il reprit d'un ton plus posé. « C'est décidé alors. Paul René ne vous connaîtra jamais. » Elle reprit avec douceur, en détournant les yeux. « La place que j'ambitionnais auprès de lui est prise, et plus dignement occupée que par moi. Que viendrais-je faire ? Mais puisque je vous affirme... « Non, » fit-elle résolument. « Je ne dois ni ne veux troubler la vie de cette autre femme qui est pour lui, dites-vous, une compagne aimante et fidèle. Elle ignorera tout. « Oh ! » fit Brigitte. « Quand on aime, on devine. » Il sourit. « Toujours la double vue ?» Elle ne répondit pas. « Eh bien, s'écria-t-il, écoutez-moi. Je vous ai menti tout à l'heure. Je suis, moi aussi, un écrivain, un poète, et l'on m'accorde un peu de talent. Or, vous m'avez ensorcelé, et je vous adore. Monsieur ! Oh, monsieur ! » fit Brigitte, endolorie par ce brutal aveu qui achevait de bouleverser toutes les pudeurs de son âme en détresse. Il osa retenir étroitement le bras captif qui cherchait à se dégager du sien. « Je vous en supplie, » reprit-il à demi-voix, « ne vous fâchez pas, laissez-moi m'expliquer. Ne croyez point à un manque de respect bien éloigné de ma pensée. Je crois, au contraire, vous avoir jugé comme vous méritez de l'être. Vous ne ressemblez à aucune des femmes dites honnêtes que je coudoie à chaque heure du jour. Et c'est ce qui fait votre charme incomparable. Vous restez ingénue, ou d'autres seraient perverses. Vous êtes Ève elle-même, avec ses candeurs et ses curiosités, ses aspirations confuses et son besoin inné de sacrifice. Votre hardiesse résulte de votre ignorance de la vie.
et je vous ai trouvé plus chaste 100 fois, rêvant d'offrir votre existence tout entière à celui dont vous aviez fait un dieu, que d'autres ne le sont en se faisant vertueusement épouser. Vous voyez bien que je vous sais, que je vous ai comprise, et que vous pouvez me regarder sans honte. Ne me repoussez pas. La rencontre d'aujourd'hui a quelque chose de providentiel. Pourquoi résisterions-nous à la destinée? Laissez-moi humblement et peu à peu conquérir ma place dans ce petit cœur gonflé de richesses et qui ne demande qu'à se donner. Je vous jure que pour être aimé de vous, je serai capable de n'importe quelle folie. » À présent, il était à l'aise, plaidant pour sa propre cause, et telle était la chaleur de sa conviction qu'il n'eut aucun besoin de chercher à être éloquent. Brigitte, cependant, perdait la tête. Tour à tour rougissante ou très pâle, confuse et ravie, inquiète et reconnaissante, elle avait laissé parler son compagnon sans même tenter de l'interrompre, heureuse surtout de penser qu'il ne la méprisait pas. Pourtant, l'idée d'accueillir un autre amour que celui auquel, mentalement, elle avait voué sa vie, lui apparaissait comme une sorte d'adultère mystique, impossible et dégradant. « Laissez-moi me retrouver et réfléchir, » balbutia-t-elle. « Ce qui m'arrive est si extraordinaire, si profondément troublant, que je ne suis plus en état de prendre une résolution. Vous ne voudriez pas abuser de l'état de désarroi où je me trouve. Prouvez-moi la sympathie dont vous parlez en m'aidant à voir clair en moi-même. Je vous jure que si je cédais à un entraînement que ma conscience dut ensuite réprouver, je serais si malheureuse que je ne pourrais plus vivre. » Il fut ému par la sincérité touchante de cette prière. « Soit, fit-il, au prix de mon propre bonheur, je ne voudrais pas vous causer une peine, mais à votre tour, ne me désespérez pas. Demeurez à Paris au moins quelques jours. Permettez que je vous revoie, que j'essaie de vous attendrir. » Au moment où il prononçait d'un ton suppliant ces derniers mots, Brigitte, tout éperdue, pressa le pas, ne voulant pas dire oui et ne trouvant plus la force de dire absolument non. La rue où il marchait était silencieuse et pleine d'ombre, en dépit des becs de gaz qui, de loin en loin, commençaient à s'y allumer. Tout à coup, ils tournèrent l'angle d'une maison et se trouvèrent dans une large voie, bruyante et claire, au bout de laquelle se profilait une silhouette massive de monument. « Ah ! » fit Brigitte en tressaillant. « Voici la gare !» Son compagnon ne put réprimer une exclamation de mécontentement. « Maladroit que je suis, » pensa-t-il, au moment où j'allais la décider. On ne s'avise jamais de tout. Depuis plus d'une heure, en effet, notre don Juan s'ingéniait à promener la confiante provinciale dans le dédale des rues qui s'étend de l'Odéon à l'embarcadère de l'Ouest, à seule fin de prolonger ainsi un entretien auquel il prenait, de minute en minute, un intérêt plus capiteux. Absorbée par la causerie, et d'ailleurs ignorante de la vraie route à suivre, la jeune femme s'était laissée guider, sans même s'apercevoir de la longueur du chemin. À un certain moment, elle remarqua que son compagnon lui faisait traverser un très grand jardin, propice à l'échange des intimes confidences. Puis ce furent des rues interminables et tranquilles où, vaguement, des écriteaux passaient devant ses yeux. Elle y lut une fois rue d'Assas, une autre fois rue Cassette, et encore rue de Vaugirard. À la fin, son cavalier, beaucoup plus préoccupé de la conversation que du but de cette étrange promenade, allait devant lui au hasard, tournant à droite, tournant à gauche, sans aucune idée arrêtée, et ne s'apercevant même pas qu'il retrouvait les mêmes rues et repassait aux mêmes endroits. Ce fut ainsi que, sans savoir comment, et à son grand déplaisir, il se trouva inopinément en face de cette gare maudite, évitée jusqu'alors avec tant d'habileté. « De grâce, » murmura-t-il avec agitation, « attendez à demain. » Mais au lieu de répondre, Brigitte s'arrêta devant la vitrine d'une grande librairie où flamboyait, dans une apothéose de lumière, toute une mosaïque de volumes à couverture multicolore, bigarrée de titres divers. « Alors, » fit-elle, « vous êtes parmi ceux-là ? » « J'y suis, en effet. Dites-moi votre nom. » Il sourit. « Ah, Psyché, éternelle et chère curieuse !» Elle reprit, un peu confuse. « Si ma demande vous semble indiscrète, excusez-moi. » « Mais pour vous répondre, ne faut-il pas que je vous connaisse ?»« Qu'à cela ne tienne, » fit-il, « mon dernier volume a paru cette semaine. Je vais, si vous le permettez, vous l'offrir. » Elle acquiesça d'un signe, et ils franchirent ensemble la porte du magasin. Seulement, par une sorte de timidité,
Brigitte laissa son compagnon s'aventurer seul entre les montagnes profondes de livres, tandis qu'elle demeurait auprès de l'entrée, perdue dans une intense rêverie. Cependant, un monsieur à barbe grisâtre venait de s'élancer de son comptoir et se précipitait vers le compagnon de Brigitte.
« Ah, cher maître, quelle bonne fortune vous amène! Eh bien, vous êtes content, j'espère. Votre Xavérine fait fureur. Nous ne suffisons pas aux demandes. Dites donc à le maire de se presser. Nous sommes à sec. Ce lambala n'en fait jamais d'autre. »
« Bon, et moi qui venais justement vous demander un exemplaire dont j'ai immédiatement besoin. »«
Je vous donnerai le seul qui me reste, » reprit le libraire. « Mais c'est bien parce que c'est vous. »
J'attendais le départ du paquebot pour l'envoyer à mon neveu, qui est là-bas, à Panama, où il n'a pas tous les jours pareil festin à se mettre sous la dent. « N'importe, il attendra. »«
Vous êtes un homme charmant, monsieur Mathieu. À présent, une plumée d'encre, je vous prie. Je voudrais signer le volume. »« Léon !» cria le monsieur grisonnant. « Vite, un encrier et une plume à monsieur Paul René. »«
Bavard !»
fit à demi-voix le poète.
« Vous venez d'escompter mon effet. »
Quand l'auteur de Xavérine, dépouillé de son incognito, rejoignit Brigitte Poel, il la trouva immobile à la place où il l'avait laissée. Dès qu'elle l'aperçut, elle fit un pas vers lui et l'enveloppant d'un regard d'adoration.
« Vous, c'était vous ?»
Il souriait, heureux de cet éblouissement qui flattait également en lui la vanité de l'homme et celle du poète, et il la trouvait plus adorable encore, sous la lumière éclatante qui frappait en plein ce joli visage ferme et rose qui faisait étinceler les yeux pleins de lueurs mouillées, les dents brillantes et l'or crépitant de la chevelure. Elle reprit, sans souci du libraire, discrètement arrêtée à quelques pas, non plus que du jeune commis-gouailleur qui rôdait derrière une pile de livres. « Un doute m'a effleuré au moment où vous m'avez dit que vous connaissiez celui que j'admirais, et encore lorsque vous m'avez avoué que vous étiez vous aussi un écrivain. Puis, j'ai craint de m'abuser. Je me suis traité tout bas de visionnaire. Je me rappelais votre portrait, qui vous ressemble si peu. » Il se prit à rire. « Parions qu'il me flattait et que vous êtes déçu. » Elle secoua la tête, sérieuse, et le regardant toujours. Elle avait une folle envie de s'agenouiller devant lui. En même temps, elle se rappelait avec une orgueilleuse ivresse leur longue causerie si émouvante. À présent, l'attrait qu'il avait attiré vers l'inconnu lui paraissait naturel et logique. C'était la confirmation de sa théorie sur la double vue du cœur. Il lui tendit tout au vert le livre sur lequel il n'avait tracé qu'une ligne, en souvenir du 27 octobre 1880 et quelques, Paul René. Avec une gravité de prêtresse qui reçoit les textes sacrés, la jeune Bretonne baisa la signature du poète, puis elle ferma le livre et s'élança dans la rue. Il l'eut bientôt rejointe et d'une voix altérée. « À présent, n'est-ce pas? Il n'y a plus entre nous ni équivoque, ni refus possible. Je vous aime, je vous veux. » Les yeux baissés, la jeune femme fit de la tête un signe vague.
« Où vous voudrez ? » fit-il plus bas. « Demain, tout le jour, n'est-ce pas? Je me ferai libre. »
Elle releva les yeux. « Ni demain, ni jamais. » Il voulut protester. À son tour, elle l'interrompit.
« Chut !» fit-elle. « Rien, plus un mot. Ne gâtons pas une heure inoubliable, qui pour moi du moins rayonnera sur toute ma vie. J'ai eu de vous, et vous avez eu de moi, ce que nous pouvions l'un et l'autre nous donner de meilleur. Retournez à votre femme. Moi, je retourne dans mon lointain village, d'où je ne sortirai plus. » Elle lui tendit la main. « Adieu. »
Quelle puissance ! Quel magnétisme étrange et irrésistible y eut-il dans la voix, dans le sourire, dans le regard de l'ingénue charmeuse. Paul René ne se l'est jamais bien expliqué, mais il est indéniable que pendant 7 minutes, la petite provinciale ignorante et fanatisée tint en son pouvoir l'homme expérimenté, le poète facile aux folles fièvres des sens, et qu'elle le domina si complètement qu'il voulut ce qu'elle ordonna, approuva la résolution ardemment combattue tout à l'heure et n'essaya pas même un mot de prière ou de protestation. Docilement, avec un regret tendre et plein de douceur, il baisa la main qu'elle lui tendait et répéta comme elle
« Adieu !»
Et sans faire un effort pour la retenir, il laissa s'effacer dans l'ombre épaissie cette radieuse vision de l'idéal amour. Ainsi s'achève « Fièvre bleue » de Daniel Darc.